L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Excellente année 2021 à toutes et tous. On n'a pas été devin l'an dernier, on n'a rien vu arriver, alors on ne prend pas de risque. On vous souhaite juste une année pleine d'énergie. L'énergie, c'est le sujet de ce L'EM du côté des collectivités, car la gestion des ressources énergétiques, les modes de production, de consommation, passe aussi par l'échelle la plus locale. Comment les communes et communautés de communes s'emparent de ces questions? Pour le savoir, au hasard Balthazar, on a choisi la nôtre, la communauté de communes Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, avec nous donc pour commencer cette année le président Michael Kernéis et le vice-président Marc Pasqualini en charge notamment de l'énergie. Donc vous êtes d'accord pour participer à cette émission. Bonjour à tous les deux et meilleurs vœux.
Bonjour Véronique, meilleurs vœux.
Alors n'hésitez pas à vous mettre assez près du micro, bien désinfecté bien sûr. Est-ce que donc l'un d'entre vous déjà peut m'expliquer les compétences des communautés de communes en matière d'énergie en général? Michael Kernéis.
Oui, alors bonjour et meilleurs vœux, bonne année à tout le monde également. Au niveau des compétences, au niveau de la communauté de communes, il n'y a pas vraiment de compétences de producteurs d'énergie, proprement dit, ou du moins pas plus que tout un chacun. Hein? Alors cela dit, en tant que collectivité, on se doit de montrer l'exemple et d'être exemplaire en la matière, et aujourd'hui encore plus que jamais. Et c'est pour ça qu'on a développé plusieurs projets sur la communauté de communes et qu'aussi on appuie, on vient en aide de nos concitoyens pour eux créer de l'énergie renouvelable ou aussi
ou des économies d'énergie.
Plus généralement, tout ce qui est faire l'économie d'énergie aussi. Oui,
c'est ça, parce qu'il y a toujours deux aspects, quoi, c'est ça. Hein.
L'un va pas sans l'autre, effectivement, oui.
Et il y a des projets qui ont été commencés de toute façon avant votre mandature. Mais sinon, est-ce que vous situeriez dans la moyenne des communautés de communes en termes de nombre de projets ou d'enveloppes budgétaires de projets d'énergie, ou est-ce que vous êtes plutôt au-dessus, en dessous? Vous avez une idée de ça, Marc Pasqualini?
Alors ouais. on va être un petit peu chauvin, mais tout le monde nous comprendra bien. Mais donc les collectivités, les intercommunalités doivent travailler à l'élaboration de ce qu'on appelle un plan climat air énergie territorial.
Ah oui, c'est à l'échelle intercommunale.
C'est à l'échelle intercommunale. Hein. Donc, on fait partie plutôt des bons élèves en la matière, parce qu'on en est à la rédaction aujourd'hui des fiches actions. Hein. Donc, on a fait une phase de diagnostic, on a passé à la stratégie aujourd'hui dans les fiches actions.
Et le diagnostic, c'était quand l'année dernière
ou... En 2018-2019, oui.
Ah ouais, donc ça fait un moment.
Ouais, ça fait un moment. Et donc c'est vrai qu'on a une année un petit peu terne à ce niveau-là dans l'avancée de ce plan climat air énergie territorial. Mais malgré tout, donc, comme je le disais, on est plutôt dans les bons élèves. Et donc c'est un plan qui nous amène à qui demande à cette une loi en fait qui impose aux collectivités d'arriver à un certain stade d'économie d'énergie, à un certain stade également de production d'énergie renouvelable.
Ah oui, il y a un pourcentage qui est demandé par exemple, c'est combien, ça serait combien?
Ouais, je suis pas très bon sur les chiffres, surtout que c'est un petit peu ancien comme dossier, on va le relancer en 2021, mais donc oui. Il y a des impératifs qui sont fixés.
Il faut produire un peu d'énergie.
Produire un peu d'énergie. Donc on a beaucoup travaillé sur cette production d'énergie. On commence à avoir quelques données qui sont intéressantes.
Ouais, il y a plein de chapitres en fait, c'est ça.
Oui, hein, oui.
Moi je les ai recensés. On va les voir les uns après les autres. Est-ce que vous êtes allé puiser quand même ailleurs des inspirations? Enfin, je sais pas. Est-ce que par exemple la Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime fait partie du réseau Prud'aide? Est-ce que vous êtes allé voir d'autres communautés de communes bretonnes qui sont lancées là-dedans aussi?
Effectivement, Brudel, on n'adhère pas encore, mais c'est quelque chose qui... la commune de Rosoine y adhère, donc je connais bien le réseau, et c'est très bien, et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Mais cela dit, au niveau de la communauté de communes, on fait partie du pays de Brest, et donc on évoque déjà avec le pays de Brest. Beaucoup, je suis le vice-président en transition énergétique au niveau du pays de Brest, donc déjà on mutualise beaucoup de choses au niveau du pays de Brest là-dessus, et ça nous permet de mettre des plateformes comme Tinergie en place.
On va en parler, ouais.
Qui ne sont pas que pour la collectivité, que pour la communauté de communes, mais pour l'ensemble du pays de Brest, quoi. Donc voilà, déjà. À notre échelle, on travaille pas que dans notre coin, on travaille aussi puis de Brest, et on croise déjà nos expériences, quoi. Et après, effectivement, sur des point précis, quand on n'a pas l'information locale, on va la chercher un peu plus loin.
Vous faites des visites, par exemple, d'installations extérieures ou je ne sais quoi
Moi, je n'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, parce que voilà, on est tout frais.
Les visites ont été limitées.
Ouais, en plus, c'est vrai que les visites ont été un peu limitées. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, parce que je pensais, par exemple, à la communauté de communes du Pays du Méné, qui est connue pour ses ambitions énergétiques. Enfin, est-ce que des élus de chez nous sont allés voir un peu ce qui se faisait là-bas ou,
Disons que moi dans le cadre de mes anciennes fonctions à l'Office national des forêts, c'est vrai qu'on était on s'est beaucoup tourné vers ce que faisait notamment Trémargat. Donc je pense que c'est
une commune des Côtes d'Armor, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc qui a beaucoup travaillé justement dans le domaine des énergies renouvelables et notamment sur tout ce qui concerne la valorisation de la filière bois énergie. Donc c'est vrai qu'on dans ce cadre-là, je suis allé voir ce qu'il faisait et il y a effectivement beaucoup d'enseignements à prendre auprès de collectivités de ce type.
Mais chaque situation est bien sûr particulière. Alors, pour ce qui est de chez nous, donc communauté de communes de Presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, déjà, qu'est-ce qui a été fait en matière d'économie d'énergie et qu'est-ce qui sera encore fait, je ne sais pas, par exemple, cette année, Michael Canis?
En termes d'économie d'énergie, il y a déjà, nous, au niveau de la communauté de communes, on fait déjà avec Énergence, avec Énergence, qui nous fait un diagnostic un peu de tous nos bâtiments.
Alors Énergence, c'est quoi? C'est une association, c'est ça, de conseil?
C'est une association locale pour l'énergie. Et donc, c'est pareil, ça couvre le territoire du Finistère, en fait. Hein. Et cette agence-là, elle travaille à la fois auprès des collectivités, mais aussi des particuliers, pour tout ce qui aide déjà l'économie d'énergie. Et donc, dans ce chapitre-là, on regarde effectivement l'ensemble des bâtiments que nous avons.
Donc, ils viennent voir les bâtiments, en fait, c'est ça?
Ils viennent voir les bâtiments. Des fois, ils font des tests aussi, des relevés de température. Parce que suivant la caractéristique des bâtiments, c'est voir si les chauffages tournent 24 sur 24 ou s'il y a une régulation qui est mise en place, si elle marche. Donc, il y a des petits tests comme ça. Et après, il y a du conseil aussi par rapport à certains bâtiments, comment les isoler, que faire, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a déjà eu plusieurs sur la presqu'île. Hein, il y a pas mal de bâtiments qui ont été revus. Et là, pour cette année, effectivement, la pépinière d'entreprise on va lancer des travaux d'isolation, de rénovation énergétique un peu sur l'ensemble du bâtiment, quoi.
Et Énergence, les particuliers peuvent appeler Énergence, c'est ça, eux-mêmes, et avoir droit à un diagnostic s'ils habitent la communauté de communes. C'est comme ça que ça fonctionne? Comment ça fonctionne?
Oui, après, effectivement, il y a tout un réseau, enfin pas tout un réseau, mais il faut appeler, ça passe aussi par Tinergie, en fait.
Tinergie, oui, on va y revenir, du coup. Ouais, alors qu'est-ce que c'est Tinergie?
Tinergie, c'est un peu c'est une plateforme que les gens peuvent appeler gratuitement. Donc, il y a un premier conseil sur les questions qui se posent pour un peu les aiguiller sur ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire de la rénovation, s'ils veulent faire de l'énergie renouvelable. Donc, il y a un premier échange et en fonction de cet échange-là, ils peuvent proposer des choses pour aller plus loin, effectivement faire un diagnostic. Et suivant, et le diagnostic peut être aidé, peut être voire pris en charge totalement. On tient compte un peu des revenus des foyers pour cela, quoi. Donc voilà, mais il y a l'accompagnement et cet accompagnement, il y a le diagnostic. Et après, il peut avoir une aide aussi pour le choix des artisans et aller jusqu'au à la validation des travaux, quoi. Donc il y a une approche totale, quoi. Et ça fait un peu suite aussi à tout ce qui était isolation à 1 euro, là,
oui,
où effectivement ça allait dans tous les sens et les gens ils savaient pas trop si c'était bien, si c'était sérieux. Et donc maintenant on oriente tout, nous, faire une plateforme qui est dont nous on est on a visu dessus et avec qui on travaille,
cofinancé en fait, quoi.
Ouais. Aussi, et ouais, à laquelle on a confiance en fait, quoi, par rapport à ça. Ouais, on sait que eux c'est
des gens sérieux, ils sont pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens.
Voilà, et on sait d'où ils appellent et s'il faut les trouver on ira les chercher.
D'accord.
Puis en termes de communication, c'est vrai qu'on avait programmé des cafés énergie justement avec Énergence sur la commune, donc qui ont dû être remis, mais ce n'est que partie remise. Et là, ce sera l'occasion aussi pour tous les gens, les habitants des communes limitrophes, du Fou, mais aussi, bien évidemment, Rosnoën, Nanvec, Pont-de-Buis, de venir poser des questions et puis voir que, comment être acteur en fait des économies d'énergie.
Donc c'est des cafés avec un élu, un expert en gros, enfin,
voilà,
c'est un peu ça l'idée.
C'est organisé en fait par Énergence avec les élus locaux. Et les invitations sont lancées pour que les gens viennent faire part de leur expérience et aussi s'approprier les méthodes d'économie d'énergie.
Et donc Tinergie, c'est un réseau à la fois pour les économies d'énergie, mais aussi éventuellement pour de la production d'énergie renouvelable, des particuliers, des bâtiments, etc. C'est ça ?
Tout à fait vrai. Et aujourd'hui, en plus, au niveau du Pays de Brest, on l'a développé par rapport à l'énergie renouvelable et notamment à l'énergie solaire. Ça va être lancé là, courant du mois. C'est le cadastre solaire.
Alors allons-y, qu'est-ce que c'est un cadastre solaire ?
Un cadastre solaire, en fait, c'est pareil, c'est un cadastre, hein, ni plus ni moins. Sauf que pour faire ce cadastre, on va se préoccuper des toitures. Et au niveau des toitures, on va confronter plusieurs données pour voir quelle toiture est la plus optimum pour recevoir du panneau solaire, quoi.
On estime le potentiel solaire de chaque toiture, du territoire.
Du territoire, effectivement.
Et qui fait ça ? Alors, c'est des prestataires extérieurs qui font ça ?
Oui, alors ça a été fait en collaboration avec Presse Métropole.
Ah oui, parce
qu'ils avaient développé ça il y a 2-3 ans. Mmh. Et ça a été étendu, en fait, à l'ensemble du pays de Brest. Donc, les 6 communautés de communes qui font partie de... Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'ils prennent en compte un peu les données d'ensoleillement, l'orientation des toitures, la pente des toitures. Et en fonction de ça, après on pourra aller voir sur la carte et chacun pourra aller voir sa maison. Et il y aura un code couleur, plus c'est rouge, mieux c'est. Et quand c'est vert, par contre, c'est pas très...
C'est pas la peine de mettre des panneaux solaires, quoi.
Et c'est vrai que Tinergie aura pareil accès à ça. Et ce qui permet qu'à distance, les gens pourront aussi dire, est-ce que ça vaut le coup pour ma toiture de recevoir du panneau solaire et voilà, déjà, ils auront ces premiers éléments-là, quoi.
Et ça sera prêt quand, ce cadastre solaire ?
Le cadastre, il est quasiment finalisé, là. Et il y aura toute une partie communication qui va être lancée à partir du deuxième trimestre de cette année, quoi.
Bon, on veillera. Et bien, alors, à propos de solaire, puisqu'on y est, il y a aussi un projet, donc là, c'est vraiment au niveau à l'échelle de la communauté de communes, c'est ça, de centrale solaire. Alors,
oui.
Qui m'en parle ? Oui.
Bon, disons que la centrale solaire, oui, effectivement, elle est finalisée, hein. Elle est finalisée,
Il n'y a plus que les branchements à faire.
Il n'y a plus que les branchements à faire. Voilà. Bon, c'est extrêmement intéressant. Ça a été en fait réalisé sur l'emplacement d'une ancienne friche industrielle. Donc,
c'était l'ancien centre d'enfouissement de Crozon. Enfin, de Crozon, de la Presqu'île, quoi. En fait, quoi.
D'accord. Ouais, sur Crozon, sur la commune de Crozon.
Oui, à Cardenvès, à la zone artisanale de Cardenvès, oui.
Donc elle est prête à brancher quasiment, c'est
prête
ça ?
Prête à brancher. Il y a quand même 6 hectares de panneaux solaires.
Ouais, mais on peut participer quand même au financement en tant que citoyen, non ?
Maintenant, parce que
ouais,
ça a été parce que c'est un portage privé hein, de ce projet-là. Bon, pour la petite histoire, il a fallu une dizaine d'années quand même pour voir arriver ce projet-là. Parce que forcément, on disait qu'il n'y avait pas assez de soleil en Presqu'île, donc ça a fait retarder un peu. Mais bon, têtu comme un breton, on est arrivé quand même.
Et vous avez raison.
et c'est bien parce que le lieu s'y apprête très bien, quoi. On ne peut rien faire d'autre sur ce terrain-là, quoi. Donc on ne va pas aller prendre empiété sur de la terre agricole non plus, quoi. Voilà, le terrain, c'est un très bel exemple. Et donc par rapport, j'étais parti du financement participatif. Effectivement, sur un projet comme ça, je crois qu'il y avait 100 000 euros ouverts à participation. Les gens sont très à l'affût de ça, parce qu'en 2 jours, tout avait été fait.
Ah ouais.
Ouais, ça a été validé en 2 jours. Et
ça rapporte tant que ça, pourtant peut-être pas
non,
tant
non,
que
non,
ça.
Non, c'est pas question de gain, c'est question plutôt que les gens, ils y croient à ce type de projet-là et qu'ils veulent y participer, quoi. Je pense pas qu'il y a des en termes de rendement.
C'est pas
idée,
énorme. On perd pas d'argent, mais on n'en gagne pas énormément, quoi.
C'est plutôt l'idéologie de dire on fait quelque chose de durable sur un terrain qui est adapté à ça, quoi.
Mais du coup, vous allez pouvoir en lancer d'autres, alors. Si ça marche si bien.
Après, on va pas s'en plaindre, mais on manque peut-être de friches industrielles, contrairement à d'autres régions. Hein. Puis comme le souligne à juste titre, Michael, je crois que c'est le solaire à ses limites aussi. On va pas aller taper dans la terre agricole, dans l'espace agricole, pour mettre du panneau photovoltaïque. Quoi.
Non, mais ça pourrait être d'autres énergies, par contre.
Ah, ça peut être d'autres énergies, comme l'énergie éolienne, par exemple. Hein.
Par exemple,
alors, l'énergie éolienne, je sais qu'il y a des pays qui se sont lancés, et là, on voit les exemples que... D'ailleurs, l'Allemagne, par exemple, qui s'est lancée sur un programme de dotation de parcs éoliens extrêmement importants, avec beaucoup, beaucoup de réticences aujourd'hui qui viennent de gauche et de droite. Hein, les éoliennes peuvent être critiquées par rapport à l'émission d'ondes, par rapport aussi aux méfaits potentiels par rapport à des populations d'oiseaux. Hein. Donc on peut les chauves-souris aussi.
Oui.
Voilà, donc c'est pas aussi facile d'implanter une éolienne qu'on aurait pu le penser à certains moments.
Ceci dit, c'est peut-être plus facile quand c'est un projet citoyen justement et quand c'est pas un projet privé.
Oui, complètement.
Donc certainement. Après, il y aura peut-être d'autres énergies qu'on va découvrir et puis qui mériteront. Enfin bon, on n'y est pas encore, c'est de la science-fiction. Il y a une énergie alors qui paraît très ancestrale là pour le coup, c'est le bois énergie. Là, je crois que c'est Marc. Peut-être.
Ah, moi, le bois énergie, c'est moi.
Voilà. Alors là, c'était une des premières que la communauté de communes a exploité, je pense. Non, c'est ça.
Disons que c'est vrai qu'il y a eu le réseau de chaleur qui a été implanté sur le Fou à l'initiative du parc d'Armorique. C'était, je pense, l'un des premiers de l'actuelle communauté de communes. Réseau de chaleur, c'était un des premiers parce que c'était un montage qui n'était pas facile, montage financier notamment. Ça n'a pas été très, très évident, mais parce qu'il y avait en fait plusieurs partenaires. Il y avait le parc d'Armorique, il y avait à l'époque la gendarmerie nationale, il y avait la commune. La communauté de communes. Donc, il y avait plusieurs partenaires et le montage financier n'a pas forcément été évident. Donc, ça fonctionne très, très bien aujourd'hui.
Donc, on s'appuie sur quoi ? Sur les forêts locales, parce qu'on en a plusieurs. J'ai vu ça dans le dernier numéro de Horizon. Sur la communauté de communes, on est riche en forêts, c'est ça ?
Oui, après, c'est vrai que c'est important parce que le point de départ, c'est la ressource. Hein, et il faut partir de la ressource pour voir ce qu'on peut faire après. Parce que mine de rien, une chaudière bois énergie, ça peut vite consommer beaucoup de bois. Et aujourd'hui, c'est vrai que la ressource est là, la ressource est pas chère, et donc on peut se dire, on en fait partout, quoi. Mais je crois que j'avais fait un petit calcul à un moment donné personnel. Je crois que c'est quasiment 120 hectares qu'il faut pour faire tourner au global, quoi, hein, avec le cycle de rotation. Mais par rapport à la production d'une forêt annuelle, c'est 120 hectares que ça peut mobiliser une chaudière comme ici au Fou, quoi. Et donc voilà, l'essentiel c'est voir qu'est-ce qu'on a comme ressource et à partir de là qu'est-ce qu'on peut alimenter, parce que l'idée c'est pas non plus d'aller chercher du bois qui traverse les océans,
bien
par
sûr.
Exemple, quoi. Donc c'est vraiment faire local et avec ce qu'on a, et effectivement il y a de quoi faire ici sur le territoire. Ouais.
Et bon, absolument aussi, à mon avis, rester dans une démarche et dans une logique de gestion durable des massifs forestiers. Parce qu'on peut, concevoir la forêt de différentes manières. Ça peut être une forêt gérée comme... le terme n'est pas le même, mais on peut se dire qu'on gère une forêt comme un champ de maïs et puis on plante.
Ouais, on cultive la forêt,
on
vraiment.
On cultive, ouais. On met un maximum d'amendements et on vient et on coupe tout 30 ans plus tard, 40 ans plus tard. Donc ça, c'est une conception de la forêt qu'on peut avoir. Hein. Mais on n'est plus dans une logique de gestion durable. Hein. Donc il faut aussi se méfier de ces travers-là.
Oui, et puis il ne faudrait pas que des beaux chênes qui pourraient servir à la construction se terminent en pellets pour la chaudière bois aussi, c'est ça, quoi.
C'est absolument, ouais. Oui, oui.
Et là, ouais. C'est bon, c'est la gestion actuellement là, de notre filière bois-énergie, ça se passe bien. Enfin,
C'est vrai que par rapport à ça, la communauté de communes, en fait, ce qu'elle a fait, elle n'a pas fait que des chaudières, elle a mis un réseau de chaleur, elle a aussi prévu de quoi stocker et sécher les copeaux, quoi, en fait, quoi. Donc, c'est cette logique-là. Et avec ça, on est plutôt en avance par rapport à ce qu'on disait, comment on était par rapport aux voisins. On est plutôt en avance par rapport aux autres territoires et aux autres communautés de communes, quoi. Ou les autres communautés de communes, c'est intéressant économiquement. En plus, ça baisse bien les frais de fonctionnement. Donc, on y va, mais ils n'ont pas cette logique-là. Ce qui fait que des fois, ils amènent de la plaquette d'un peu d'autres territoires, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, donc...
Ouais, puis c'est pas seulement les forêts qui sont exploitées, ça peut être les talus éventuellement, enfin je sais pas...
Ouais, ça peut être les talus. Après, c'est vrai que l'exploitation de la forêt linéaire, hein, tous les talus, c'est quelque chose qui est compliqué, hein, parce que ce sont des productions qui sont pas importantes, et donc ça nécessite quand même de mobiliser des personnes, mobiliser du matériel, aller une fois plus dans les champs aussi pour chercher le bois, et donc les rendements, donc forcément sur une forêt linéaire, sont complètement différents de ce qu'on peut observer dans une vraie forêt.
Et avoir une filière bois énergie, est-ce que ça suppose forcément d'avoir aussi une filière bois construction adossée ou pas forcément? Qu'est-ce qui est le mieux dans ces cas-là?
Après, c'est complémentaire, effectivement, quoi. Hein, donc, et là, aujourd'hui, je retournais sur le pays de Brest parce que il y a effectivement ce projet-là de toute une filière bois locale. Hein, parce que sur le territoire, mine de rien, on a les producteurs, mais aussi les transformateurs et après le dernier maillon de la chaîne, la construction aussi. Et donc, effectivement, on essaie de travailler un peu sur l'ensemble, un territoire plus grand que celui de la Presqu'île, mais un peu pour avoir cette vision d'ensemble-là où, effectivement, il y a du bois d'œuvre, il y a du bois de moindre qualité, plus pour le bois énergie, mais souvent, ils sont un peu les uns à côté des autres aussi, hein, dans une forêt, forcément. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cette vision globale effectivement pour une gestion raisonnable et de la forêt quoi.
Il y a déjà un travail considérable qui a été fait justement pour reprendre ce que dit Michael là, par le parc naturel régional d'Armorique hein, justement sur la valorisation sur le territoire du parc hein, de toute cette filière bois. Donc ce dont on parle en fait c'est quelque chose c'est une étude qui a été faite il y a 2 ou 3 ans mais qui est encore valable et justement la recherche a été de la synergie entre les différentes composantes de la filière bois. Pour produire du bois d'œuvre, du bois de chauffage, mais que chacun s'y retrouve et dans une optique de gestion durable des massifs forestiers.
Et là, les chaudières en fonctionnement donc de la Comcom, elles sont où en gros pour savoir les chaudières bois pour faire un petit récap.
Il y a une roue. Ah. Ouais. La piscine à Crozon, donc c'est une chaudière bois. Mm-hmm. Donc c'est vrai que c'est important, c'est l'énergie est importante pour une piscine. Et après, il y a au niveau de l'hôpital de Crozon également, et au niveau d'un collège également à Crozon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la piscine, on a la compétence humaine pour faire la maintenance, l'entretien des machines. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on la mutualise avec l'hôpital et avec l'école. Ça évite aussi d'avoir des gens à intervenir de loin, parce que ça demande quand même un suivi important, et il le faut hein, pour que ça fonctionne bien, parce que c'est très technique quand même. Et donc voilà, donc on a mutualisé aussi cette compétence-là entre les différentes chaudières qu'il peut y avoir sur le territoire.
Est-ce qu'il y a d'autres
de mémoire, il y en a 2 également. On va pas sinon les ponts de Buisien ne vont pas apprécier si on oublie de parler. Oh là là. Donc à Pont-de-Buis, je crois qu'il doit y avoir 2 chaudières bois.
Ah ouais, donc tout ça, on va dire communal ou intercommunal en fait.
Voilà, communal ou intercommunal.
Voilà, c'est ça.
Et donc ça, voilà, c'est la production d'énergie. Il y a d'autres productions d'énergie locales à signaler où on a fait le tour là Alors.
Après, il y a un projet qui soit les premiers du Finistère, hein, c'est la Smart Grid.
Alors voilà, qu'est-ce que c'est ça? Smart Grid.
Comment que ça marche?
Un gros mot déjà.
En français.
Voilà. Alors en fait, c'est un concept de producteur-consommateur en fait quoi. C'est-à-dire que c'est au niveau des locaux de la communauté de communes à Gardanvès, donc le siège là-bas à Crozon. Et donc on a pas mal de bâtiments, hein, comme je disais, il y a un bâtiment pour le stockage du bois, énergie. Il y a aussi un bâtiment pour le stockage des déchets. Et donc en fait sur l'ensemble de ces bâtiments-là, comme il y a des belles toitures, on a mis du photovoltaïque. Il y a aussi une éolienne qui a été posée. Et après, en fait, il y a un système intelligent, si on peut appeler ça un système intelligent, qui va gérer la production des bâtiments qui produisent et les bâtiments qui consomment. Il va réguler, en fait, à la fois, il va utiliser l'énergie qui est produite en instantané pour l'orienter vers les bâtiments qui en ont besoin. Quand il n'y a pas assez d'énergie produite, il utilise l'énergie du réseau. Et il y a aussi un peu de stockage pour pouvoir optimiser en fait, la production et la consommation. Et de cette manière-là, on arrive à autoproduire 70% de l'énergie utilisée sur les sites des bâtiments communautaires.
Donc là, il faut une unité géographique. Enfin, et voilà, on ne peut pas faire un smart grid à une échelle intercommunale. Ça serait trop grand, je suppose. Enfin, si, éventuellement, mais ça coûterait trop cher. Quoi. Ouais. Ça serait peut-être pas intéressant.
Après, il faut que ce soit quand même localisé. Mais aujourd'hui, la législation a pas mal évolué parce qu'on peut étendre maintenant ce smart grid à toute la zone artisanale. Et donc, c'est-à-dire proposer ça aux opérateurs privés pour qu'ils s'équipent leur toiture et qu'ils utilisent l'énergie aussi. Et aujourd'hui, avant, c'était un rayon qui était très limité. Aujourd'hui, on arrive à 2 km, je crois, de rayon, donc ce qui laisse des possibilités et ce qui pourrait être proposé aussi sur la zone artisanale de Kiela ou sur d'autres zones aussi à Pont-de-Buis, hein, parce que là, il y a du bâtiment également là-bas. Hein.
Et donc, c'est une gestion, un smart grid, en fait, c'est une gestion informatique, c'est ça, enfin numérique, qui permet une adéquation parfaite, enfin parfaite ou presque, entre consommation et...
Une optimisation, on dira.
Ouais, ouais, optimisation.
Alors, il y a la production, il y a la consommation, et entre eux deux, il y a un système qui gère en fait la production et la consommation en fonction de la production.
Très bien. Alors, il nous reste encore une toute petite minute. Si éventuellement il y a alors, on a parlé des cafés énergie. Est-ce qu'il y aura d'autres opérations de communication, si la situation sanitaire le permet, autour de l'énergie menée par la Comcom, comme par exemple ce qu'il y avait eu c'était il y a 2 ans, je pense qu'il y avait eu une espèce de forum de l'énergie, des visites pour les habitants. Non, ça c'est pas prévu encore.
C'est vrai que le calendrier est un petit peu dur à établir aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on envisage. Enfin, on portera ça au niveau de la communauté, l'intercommunalité, une journée plutôt liée à l'environnement. Mais l'environnement, c'est aussi bien évidemment les économies, la production d'énergie. Hein, donc ça, c'est quelque chose dont on discutera au sein d'un bureau communautaire prochainement. Mais c'est vrai que pour 2021, il faut absolument qu'on relance cette dynamique autour de l'environnement et avec sa composante de transition énergétique.
C'est tout le mal qu'on va se souhaiter.
Voilà.
Et on va vous remercier d'être venu pour cette première émission de l'année. À bientôt.
Merci à vous. Merci, Véronique. À bientôt.